Par actualité. Alors bonjour, Clotilde Seille au micro pour les paractualités de Canal M. Et aujourd'hui, la paractualité du jour, l'Église et les personnes handicapées. À Montréal, Héritage Montréal ne tient pas compte des personnes handicapées, plus du support pour les aidants naturels dans le quartier Saint-Michel. L'entrevue du jour, pour tout savoir sur le Hacking Health, je m'entretiens avec Soukena Paquin. Les paractualités en région, l'Armée du salut de Québec accueille des cas de plus en plus lourds, une jeune auteure au service de lecteurs différents et le véritable enjeu du transport adapté. L'organisme du jour, c'est l'organisme Dystrophie musculaire Canada. Je vais m'entretenir avec Marie-Hélène Bolduc, la coordonnatrice au développement des revenus. Et puis, les paractualités nationales et internationales. En Nouvelle-Écosse, des parents souffrant de déficience intellectuelle perdent la garde de leurs enfants. Au New Jersey, la maman d'un petit garçon autiste fabrique des maisons pour des fées stimulantes. Et nous finirons par quelques mots et quelques actualités en rafale. Alors, on commencera aujourd'hui par un gros dossier. Ça nous vient de France, c'est sorti dans le journal La Croix. On parle de l'Église qui tente de progresser dans l'accueil du handicap. Et à partir du lundi 12 septembre, Lourdes, la ville de Lourdes, accueille une rencontre nationale de personnes handicapées. Ce rassemblement permet d'intégrer davantage les personnes porteuses d'un handicap dans la communauté catholique. Célébration eucharistique dans une paroisse à Paris, et ça c'est une histoire vraie que je vous raconte. Une jeune fille, trisomique, tend la main à sa voisine de banc. Celle-ci la serre et puis se détournant, elle sort un mouchoir de son sac et elle s'essuie consciencieusement les mains. Oui, le geste fait frémir et indigne encore celle qui le raconte, Bénédicte Bourdel, responsable du service de la catéchèse spécialisée à Paris. Si celle-ci précise que l'attitude décrite ici est exceptionnelle, elle tient tout de même à remarquer qu'elle témoigne dans un sens de la gêne et de la frilosité qu'entoure encore aujourd'hui la question de l'accès et celle de l'intégration des personnes porteuses d'un handicap, essentiellement mental, au sein de l'Église et des paroisses. La maladie psychique reste un peu incomprise dans l'Église. Il faut réexpliquer sans cesse aux membres de la communauté qu'on connaît des difficultés, explique ainsi Jean-Marie Cruvelier, fidèle du diocèse de Limoges, qui souffre de bipolarité. Et il nous dit cette chose incroyable, certains prêtres aujourd'hui, certes plutôt rares, continuent de refuser de donner des sacrements aux personnes handicapées mentales. Les églises manquent également parfois de place pour que les fauteuils puissent circuler, confie Sophie Basset, habitante à Vanves dans les Hauts-de-Seine, elle-même atteinte d'un handicap moteur. L'état des lieux peut paraître, sinon noir, du moins sombre. Il est pourtant autant combattu depuis des années par des associations, des paroisses et des diocèses. Ces derniers organisent notamment des rassemblements comme celui piloté par le Service national Famille et Société de la Conférence des évêques de France jusqu'au 15 septembre à Lourdes. Et lance aussi ces diocèses des initiatives locales pour faire bouger les choses et les mentalités. Et puis, il y a aussi des gens qui font des choses fantastiques. On nous parle dans ce dossier, par exemple, de prêtres qui ont appris le langage des signes. Alors, évidemment, lorsqu'ils font la messe, ils sont capables parfois de s'adresser directement à des personnes handicapées par le langage des signes. Alors, ce qui m'amène à poser cette question ici au Québec, ça se passe comment entre l'Église et les personnes handicapées? L'actualité du jour à Montréal, Héritage Montréal rejette les personnes handicapées. Ça nous vient du Raplic à l'occasion du 50e anniversaire du métro de Montréal, ou plutôt du 50e anniversaire de l'inaccessibilité du métro de Montréal. Héritage Montréal, lui, sera le maître d'œuvre du 40e anniversaire du circuit architectural de ce réseau. L'événement consiste en une série de visites guidées du Montréal souterrain. Dans des informations pratiques, on ajoute que, et c'est écrit en gras, les circuits peuvent nécessiter de monter ou de descendre des escaliers. Il faut donc comprendre qu'une personne qui se déplace avec une aide à la mobilité est de facto exclue de la possibilité de bénéficier de ces visites. Pourtant, Héritage Montréal et M. Dinou Boumbarou, le grand défenseur du patrimoine montréalais, savaient fort bien qu'en mettant sur pied un tel événement, il discriminait un fort pourcentage de la population montréalaise, mais aussi des touristes à mobilité réduite. Nous avons laissé trop d'occasions de faire valoir nos droits. Nous avons passé l'éponge trop souvent. 1966 nous a laissés en haut sur le trottoir, nous excluant de ce métro qui faisait la fierté des Montréalaises et des Montréalais. Bref, nous avons été depuis trop longtemps les acteurs silencieux de cette exclusion sociale. Je vous rappelle que ce sont des propos qui viennent du RAPLIC, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. On peut s'informer auprès de Linda Gauthier, la présidente du RAPLIC à www.raplic.org. Également à Montréal, l'équipe du Temps d'une pause a le plaisir de vous inviter au lancement des activités gratuites ou à moindre coût organisées cet automne dans les quartiers Saint-Michel, Saint-Léonard et Villeray pour la population aînée en général et proches aidantes en particulier. Notamment demain, le 14 septembre, dès 18h30, l'équipe du Temps d'une pause vous attend pour un apéritif convivial au 7400 boulevard Saint-Michel à Montréal. Le Temps d'une pause, qui porte bien son nom, qui vous présentera les nouvelles conférences et journées d'ateliers destinées aux proches aidants de personnes atteintes de maladies cognitives de type Alzheimer. De la vie quotidienne à domicile aux démarches pour l'entrée en hébergement, les thématiques abordées viseront à répondre aux préoccupations des proches aidants. Alors, je vous rappelle que c'est demain à 14h, demain le 14 septembre, je vais y arriver, de 18h30 à 20h. Le Temps d'une pause, où c'est? Eh bien, ce service de répit est situé au 7400 74 00 boulevard Saint-Michel à Montréal. Et tout de suite, je vais m'adresser à Soukiena Papin, qui est au téléphone. Soukiena, qui est bénévole chez Hacking Health et qui en est la principale organisatrice de ce café. Bonjour, Soukiena.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très, très bien, et vous-même?
Oui, très bien, merci.
Mais alors, dites donc, qu'est-ce que le hacking, ou comment on dit, Hacking Health?
Hacking Health, oui.
Ah, OK, avec le feu, hein? Oui.
Oui.
Dites-nous, de quoi s'agit-il?
Dans le fond, Hacking Health est un organisme sans but lucratif qui a été fondé ici à Montréal en 2012. Puis notre but, c'est de vraiment enlever les barrières à l'innovation dans le domaine de la santé. Et comment qu'on fait ça? Bien, on organise des événements mensuels qui s'appellent justement des Hacking Health Cafés. Et le but de ces événements-là, c'est de ramasser les professionnels de la santé et les professionnels de la technologie ensemble autour d'une thématique reliée à la technologie en santé. Et on invite des conférenciers qui présentent leurs projets, qui parlent un peu de la thématique en question. Et après, on encourage justement, on essaie de stimuler la discussion entre ces professionnels et les de la santé et les professionnels de la technologie pour qu'ils puissent innover ensemble. On organise aussi des événements qu'on appelle des hackathons, qui sont vraiment de plus grande échelle. Et ça, c'est vraiment comme des compétitions où les gens forment des équipes interdisciplinaires pour développer des solutions technologiques centrées autour des besoins des cliniciens ou des patients qui veulent développer une solution en particulier.
J'aimerais beaucoup, Soukiena Paquin, que vous nous donniez quelques exemples. Quand vous nous parlez de technologie comme ça, de quoi parlez-vous exactement?
Mais par exemple, d'abord, le café qui s'en vient le 15 septembre, c'est autour de la réadaptation. Et quand on parle de la technologie en réadaptation, ça peut être au niveau de plusieurs étapes dans le processus de réadaptation. Mm-hmm. Alors, par exemple, si on parle de l'évaluation du patient au début, la technologie peut être très utile parce qu'on peut numériser toutes les évaluations qu'on fait auprès de notre patient. Et ça nous aide. Ensuite, quand on refait les évaluations au cours de son processus de réadaptation, on peut voir le progrès avec le patient en question, avec le clinicien. Ça permet un suivi plus précis et plus motivant pour le patient aussi. Alors, ça peut être des technologies d'évaluation, ça peut être des technologies qui peuvent servir à des fins d'intervention. Alors, quand on parle de, par exemple, il y a des technologies robotiques pour
Oui.
la réadaptation neurologique plutôt. On a aussi la réalité virtuelle, des jeux vidéo qui sont développés pour justement la réadaptation du monde supérieur dans les patients avec qui ont subi un AVC. Et
Mais
puis, il y a
vous,
des exemples
Soukena,
aussi.
vous êtes
Oui.
bénévole, pardon de vous interrompre,
Oui,
mais
pas de problème.
hein, vous êtes bénévole chez Hacking Health. Qu'est-ce qui vous a amené là?
Mais moi, je trouve que le système de la santé qui est maintenant comme aujourd'hui, ça manque un peu.
Est déficient.
Oui, est déficient. Ça, je trouve qu'on habite dans une ère où est-ce que la technologie est partout autour de nous. Tout le monde est comme un téléphone, tout le monde est sur Internet. Mais quand on rentre dans un hôpital, quand on rentre dans un centre de réadaptation, on a toujours l'impression de revenir un peu en arrière.
On est en retard, c'est ce que vous
Oui.
trouvez.
Exact. Alors, c'est des mouvements comme ça, comme Hacking Health, c'est vraiment le but, c'est de partir la discussion et de stimuler cet intérêt pour intégrer des technologies dans le domaine de la santé
Bon.
de l'interne, vous voyez.
D'accord. Parlez-nous plus précisément du 15 septembre. À quoi peut-on s'attendre? Quels seront les sujets abordés et qui seront vos invités?
Donc, on a un programme qui est assez rempli pour le 15 septembre. Ça
Oui.
montre fort intéressant. D'abord, les deux premiers conférenciers sont des chercheurs liés au centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation. Et ces deux chercheurs, Philippe Archambault et Dalia Kerry, les deux, ils sont intéressés à faire de la recherche sur l'utilisation des technologies en réadaptation, justement. Ils vont nous parler des différentes applications et des différents projets qui travaillent dessus en ce moment, incluant la réalité virtuelle, le développement d'un fauteuil roulant motorisé intelligent. Oui, c'est vraiment des choses super intéressantes. Ensuite, on a une clinicienne qui est physiothérapeute et cofondatrice de sa clinique qui s'appelle Neuroconcept. Donc, elle s'appelle Cindy Gauthier. Et à sa clinique, ils font de la réadaptation neurologique. Ils intègrent vraiment beaucoup de technologies dans la réadaptation de leurs patients. Et les trois derniers, on a invité trois représentants d'entreprises québécoises qui ont tous les trois développé des technologies diverses à des fins qui sont applicables dans le domaine de la réadaptation.
C'est fantastique.
Qui vont nous parler un peu de leurs produits.
Il est où ce café, Soukena?
Ça va être au bureau de OVH, qui se situe juste après du métro McGill. C'est le 1801 McGill College, au 8e étage.
OK.
C'est là où est-ce que ça va se situer. Et on a de la place pour... On s'attend à avoir une centaine de personnes qui vont
Une
arriver.
Centaine de personnes. Est-ce qu'il faut s'inscrire ou est-ce qu'on peut arriver comme ça à la porte? Ou...
Oui, absolument, il faut s'inscrire.
Ah, il faut s'inscrire. Où est-ce qu'il faut s'inscrire?
C'est si vous allez au site eventbrite.ca.
Pourquoi tout est en anglais, donc?
on fait ça bilingue. Ça
d'accord.
Ce jeudi, ça va être tout en français, mais...
D'accord.
C'est eventbrite.ca et vous n'avez qu'à chercher Hacking Health et ça va être le premier événement qui va arriver là. Ouais.
D'accord, d'accord. Et puis, est-ce qu'il y a un prix à payer?
Oui, ça va coûter 8 $.
8 $, bon, c'est très raisonnable. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je m'entretenais avec Soukena Paquin, bénévole chez Hacking Health et l'organisatrice principale de ce café qui, donc, je le rappelle, va avoir lieu au 801 McGill College, au 8e étage, hein?
Oui, le 1801 McGill College, au 8e
étage. Le 1801, pardon, au 8e étage. Et puis, pour inscription, redonnez-nous ça vite fait.
eventbrite.ca.
Et là, on va sur Hacking Health. OK.
Exactement.
Bon? Eh bien, je vous remercie. Bon, oui, ça va, c'est bon. Passez une très, très belle journée et puis je vous souhaite un bel événement. On rappelle que c'est le 15 septembre. Merci. Au revoir, Soukena.
Merci beaucoup. Bye-bye.
Au revoir. Nous voici maintenant en région. L'actualité qui nous amène beaucoup dans la ville de Québec, où l'Armée du Salut accueille des cas de plus en plus lourds. L'hôtellerie pour hommes de l'Armée du Salut peine à suffire à la demande grandissante. Été comme hiver, le centre d'hébergement situé sur la côte du Palais dans le Vieux-Québec est rempli à pleine capacité plusieurs jours par mois. Et l'organisme doit aussi composer avec une clientèle vieillissante et de plus en plus vulnérable. En 2015, 40% des personnes âgées à l'Armée du Salut des personnes hébergées à l'Armée du Salut avaient plus de 60 ans. Thomas Fréchette, qui travaille comme intervenant et agent de liaison, remarque que cette tendance s'accentue depuis 2 ans. Selon lui, l'itinérance, la toxicomanie et les problématiques de santé mentale ne sont pas étrangères à la situation. Ça engendre un taux de stress, dit-il, M. Fréchette, un taux qui semble faire vieillir les gens de façon prématurée. Il faut savoir que l'Armée du Salut recueille régulièrement des itinérants à mobilité réduite ou qui souffrent d'Alzheimer, des gens qui, entre guillemets, ne fonctionnent plus bien en société. Et il nous dit, M. Fréchette, on est en débordement permanent depuis 2 ans. On est toujours les premiers à vivre les contre-coups de la demande dans les autres centres, comme par exemple la maison L'Aube-Rivière et la maison Revivre. Et contrairement, nous dit-il, à la croyance populaire, c'est l'été où la demande d'hébergement est la plus grande. C'est une situation qui s'explique en partie par la période des déménagements, mais aussi par le fait qu'expulser quelqu'un en plein hiver, c'est un peu plus difficile et il y en a parfois qui ont un peu pitié de le faire. On parle des propriétaires vis-à-vis de mauvais, entre guillemets, locataires, mauvais à leurs yeux. Nous sommes encore à Québec. C'est un papier qui est sorti dans le journal L'Appel et qui s'appelle « Donner un héros aux minorités de la société ». Nous sommes dans le milieu de la littérature où, depuis quelques mois, Anne-Alexandre Gauthier travaille sur un projet. En plus d'être étudiante à l'Université Laval et la maman d'un petit garçon, bien qu'occupée, elle se donne à fond dans l'écriture de livres qui visent les petits et les grands dans le but de faire connaître ceux qui gagneraient à l'être plus. De quoi s'agit-il? Eh bien, ces livres parlent de tout ce dont on ne parle pas dans la société et surtout de toutes ces personnes dont on ne parle jamais dans la société. C'est vraiment pour démystifier tout cela. Par exemple, les enfants qui sont autistes n'ont pas souvent de livres où le héros est un autiste. Ils ne peuvent pas se trouver un personnage auquel ils s'identifient. Et je trouve que c'est un très gros manque. Alors, j'aimerais donner un héros à tout le monde, même à ceux qui font partie de minorités différentes, explique la jeune femme de 24 ans qui a créé pour se faire et pour s'aider les éditions Courte Pointe et pour financer son projet. Anne-Alexandre Gauthier a lancé une campagne de financement avec la plateforme La Ruche. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller visiter le site internet de La Ruche, donc laruche.com, c'est tout simple. Et ensuite, vous cliquez sur les éditions Courte Pointe. En région encore, c'est sorti dans Le Soleil. Quel est le véritable enjeu du financement au transport adapté? Équilibrer les finances de l'État, changer les règles du service pour encore réduire davantage les budgets annuels et l'intégration à poursuivre des personnes handicapées. Est-ce vraiment pris en compte dans les discussions en cours concernant l'avenir du financement du transport pour les personnes handicapées pour 2017? Avec les surplus de 2015-2016 que le gouvernement a annoncé en juillet 2016, il se trouve encore des fonctionnaires trop nombreux pour tenir le discours qu'il faut optimiser la gestion des services de transport adaptés avant de demander un rehaussement du financement gouvernemental. On entend dire même que le fait de manifester pour les transporteurs leur difficulté à répondre à la demande, ça ne peut suffire à justifier une demande d'augmentation du financement. Comme si depuis 30 ans, tous les transporteurs de transport adaptés géraient mal leurs services. Alors, et les personnes handicapées dans tout ce débat, est-ce que ce ne sont pas elles qui sont les premières à crier au loup lorsque des coupes sont intervenues pour rationaliser les services de transport adaptés? Et pourtant, est-ce qu'on leur donne la parole? Est-ce qu'on tient compte de leurs expertises, de leurs connaissances? Eh bien non, elles sont mises de côté. Voilà ce qu'on peut lire dans ce papier, « Le véritable enjeu du transport adapté ». Paru sous la rubrique Point de vue dans Le Soleil. Vous savez que tous les jours, je m'adresse avec une personne qui fait partie d'un organisme. Et aujourd'hui, l'organisme, c'est Dystrophie Musculaire Canada. J'imagine que c'est le réseau plus québécois. Et je parle avec Marie-Hélène Bolduc. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
Marie-Hélène, vous êtes coordonnatrice au développement des revenus et j'aimerais tout d'abord que vous nous fassiez une présentation de cet organisme Dystrophie Musculaire Canada, s'il vous plaît.
Oui, alors comme le nom le dit, Dystrophie musculaire Canada est un organisme canadien. Mm-hmm. Et nous, bon, on a un bureau à Montréal.
D'accord.
Tous les bureaux, partout au Canada, ce qu'on s'évertue à faire, c'est amasser des fonds mm-hmm. afin de financer la recherche et de fournir des services aux personnes touchées par les maladies neuromusculaires.
D'accord. Il y en a, est-ce qu'on connaît à peu près la proportion de personnes atteintes au Québec et au Canada par cette maladie?
Oui, en fait, on évalue qu'il y a 50 000 personnes au Canada, dont 15 000 au Québec. Le Québec est une région très, très touchée par ces maladies génétiques-là, particulièrement dans les régions de Charlevoix et Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Est-ce que ça peut s'expliquer, ça?
Oui, en fait, c'est que ce sont des maladies génétiques. Les gens qui ont colonisé le Saguenay avaient les gènes de ces maladies-là et ont eu beaucoup d'enfants. Mm-hmm. Bon, c'était la colonisation, alors ces personnes-là ont eu beaucoup d'enfants et le gène s'est...
s'est propagé.
Oui, exactement.
Alors, il va y avoir un événement important le 18 septembre. Quel est-il exactement, Marie-Hélène Bolduc?
En fait, ce sera la Dystromarche de l'Outaouais.
Okay.
Le 18 septembre, c'est au parc Moussette à Gatineau. Mm-hmm. C'est la dernière Dystromarche de la région du Québec, en fait, parce qu'au Québec, il y a 9 Dystromarches. Au Canada, il y a 60 Dystromarches qui ont lieu. Donc, ça a lieu de mai... Bon, il y en a beaucoup en mai, juin ou septembre. Septembre, c'est le mois de la dystrophie musculaire.
Oui.
Donc, on en a un petit peu plus à cette période-là. Et notre dernière, c'est ce dimanche à Gatineau.
Et puis, il va y avoir une course X-Men à Québec à la fin du mois de septembre?
Oui, exactement. Il va y avoir une course X-Men le week-end suivant, le 24 septembre. En fait, la course X-Men a lieu, c'est une organisation, les courses X-Men, et l'organisation nous donne la dernière vague. Donc, la dernière vague qui devrait partir dans l'après-midi, il y aura environ 3000 participants à la course X-Men. Et pour Dystrophie musculaire Canada, donc pour la dernière vague, entre 150 et 200. Et ce qu'il y a de particulier avec cette vague-là, c'est que les gens ne doivent pas seulement payer leur inscription pour participer, mais doivent amasser des fonds au profit de Dystrophie musculaire Canada.
Fantastique. Mais alors, qu'est-ce que vient faire l'Inde Tim Horton avec les petits gâteaux sourires aussi?
Oui, c'est cette semaine. Hein.
C'est cette semaine.
Il y a beaucoup de choses qui se passent, oui. Alors, du 12 au 18, les magasins Tim Hortons vendent des biscuits, les biscuits sourires qu'ils appellent, et ils choisissent chacun une cause à qui ils vont remettre les profits. Parce que ces biscuits-là coûtent 1 $ l'unité, et chaque dollar est remis à la cause qu'ils ont choisie. Alors, nous, les Tim Hortons de la région de Lanaudière, donc de Terrebonne, Mascouche, Repentigny, Lange-Gardien, vont remettre tous les profits de la vente de biscuits sourires à Dystrophie musculaire Canada.
Eh bien, c'est fantastique. Marie-Hélène Bolduc, coordonnatrice au développement des revenus de l'organisme Dystrophie musculaire Canada. On aura l'occasion de se reparler, Marie-Hélène, sur ces ondes.
Oui.
Et on vous accueillera avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
Mais je vous en prie, passez une très belle journée. Merci.
Merci.
Parlant de biscuits sourires, en ce moment, il faut savoir qu'il y en a également en vente dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la cause de l'autisme. Parce que, comme l'a très, très bien dit Marie-Hélène Bolduc, Tim Horton embrasse plusieurs causes, dépendamment de la région. Alors, dans la Naudière, en ce moment, c'est pour la Dystrophie musculaire Canada. N'attendez pas pour aller vous sucrer le bec. Et comme ça, ce sera pour la bonne cause. Et je vous le disais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pour la cause de l'autisme. Actualité nationale, des parents souffrant de déficience intellectuelle perdent la garde de leurs enfants. Nous sommes en Nouvelle-Écosse. La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a enlevé la garde parentale à deux parents souffrant de déficience intellectuelle, infirmant ainsi la décision de la Cour inférieure. La Cour d'appel affirme que les enfants encouraient des risques parce que leurs parents se chamaillaient. en les exposant du coup à de la violence. La décision de la Cour indique que leur comportement n'était pas susceptible de changer. Tout contact avec leurs enfants âgés de 2 et 4 ans leur a donc été interdit. Des associations de la Nouvelle-Écosse se disent troublées par cette décision et affirment qu'il faut une nouvelle façon d'aborder la déficience intellectuelle. La partie de la décision qui affirme que le comportement des parents ne peut pas changer inquiète notamment le président de People for First, pardon, un groupe de défense des personnes souffrant de déficience intellectuelle. En Nouvelle-Écosse. Pour Dave Kent, qui souffre de la, également de déficience intellectuelle et qui est lui-même papa, la Cour a, à travers cette décision, refuse de donner aux parents, d'après lui, l'occasion de s'améliorer. Et selon lui encore, la Cour ne leur a pas non plus laissé la chance de pouvoir apprendre de leurs enfants. Et puis très rapidement à l'international, dans le New Jersey, la mère d'un jeune homme autiste s'est lancée dans la fabrication de minuscules maisons pour fées qu'elle cache dans les bois. Et son but, c'est de créer un parcours de découverte pour stimuler son fils, mais aussi les autres enfants. Il est atteint d'autisme, son fils de 25 ans. Alors elle s'est lancée dans la confection de ces petits abris en matériaux naturels, puis qu'elle égrène partout dans 850 hectares de forêt. Ces maisonnettes sont destinées aux fées des bois. Alors, elle dit pour une fois, en principe, c'est toujours nous qui lui montrons le chemin à suivre, mais là, c'est lui qui nous montre où sont les maisons des fées. Et c'est ouvert absolument à tout le monde. Alors, tout le monde peut aller profiter de ces maisons des fées. C'est dans le New Jersey. C'est un article que vous pouvez trouver dans le New York Times. Et puis en rafale maintenant, un fauteuil roulant qui intéresse James Dyson. Deux étudiants en ingénierie du design industriel ont remporté le prix français du James Dyson Award grâce à leur projet Free Wheelchair, qui est un système de roues adaptable à tous les fauteuils roulants. Ils sont de l'Université de technologie de Compiègne, ces deux jeunes-là, qui nous disent que les fauteuils roulants, c'est vrai, en France comme ici, n'ont pas beaucoup évolué depuis des années et les problèmes liés à leur usage n'ont pas changé depuis le brevet du premier fauteuil roulant en 1869. C'est suite à ce constat qu'ils ont décidé de travailler fort à un nouveau fauteuil roulant qui comporte notamment un dispositif qui leur assure sécurité et confort parce que les mains ne sont plus en contact direct avec la roue, mais il y a un moyeu qui est relié à la roue qui permet simplement de freiner. Résultat fini, alors les frottements, les brûlures et les blessures liées à leur utilisation. Au lac Saint-Jean, une dernière petite rafale, triste celle-ci, devant les difficultés financières qui s'accumulent depuis les dernières années, le conseil d'administration de la Société canadienne de la sclérose en plaques, section Lac Saint-Jean, se retrouve devant l'obligation de fermer temporairement ses opérations à son bureau de Dolbeau-Mistassini et de procéder à la mise à pied de sa coordinatrice, Ginette Gagnon. Pour info, lacsaintjean@scleroseenplaques.ca. Voilà, c'était vos paractualités sur Canal M. Merci Anne-Laure Janson pour sa fantastique recherche. C'était Clotilde Seille au micro. Bonne journée et à demain. 11h.